autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour remettre en question notre préhistoire qui se révèle à chaque nouvelle découverte, bien plus riche, buissonnante et complexe qu'on ne l'imaginait, et ce dès les origines, sur le continent africain. Comment remonter le fil de notre humanité, qui sont nos ancêtres? Pourquoi sommes-nous tous métissés? Quand et comment sommes-nous devenus Homo sapiens, cette étrange espèce humaine qui colonise aujourd'hui toute la planète? C'est une formidable saga évolutive, la nôtre, que nous allons tenter de retracer ensemble avec nos invités, la paléoanthropologue Sylvana Condemi, le journaliste François Savatier, qui nous donneront les dernières nouvelles de Sapiens, titre de leur ouvrage qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Nous sommes également en duplex avec le préhistorien Francesco De Rico, qui nous fera partager ses plus récentes découvertes, qui bouleversent encore une fois la donne, notre chronologie et surtout nos certitudes, autour de la question « Quelles nouvelles de la préhistoire ?» Bienvenue.
Ce qui est fascinant, c'est qu'elle ne cesse de bouger. Et un des aspects les plus fascinants, c'est cette arborisation de plus en plus riche de nos ancêtres et de nos cousins préhumains et humains. Et c'est des évidences de plus en plus importantes de métissage entre ces différentes branches. Et donc je crois qu'à la question qui avant était assez simple, qu'est-ce qu'être humain? La question c'était, quelles ont été les étapes qui ont abouti à la naissance de nous-mêmes, de nos ancêtres, des êtres humains. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'être humain a une résonance beaucoup plus étrange et beaucoup plus intéressante, c'est combien de façons différentes y a-t-il eu d'être humain? Et combien de façons possibles y aurait-il pu avoir d'être humain? Et quelle part portons-nous en nous de ce qui constituait une petite partie de ces autres branches de l'humanité ou de nos ancêtres préhumains?
Fascinante question soulevée par le généticien et conteur Jean-Claude Amezen, que nous allons creuser donc avec nos invités, en commençant par prendre les dernières nouvelles de Sapiens. C'est le titre de votre ouvrage, Sylvana Condemi et François Savatier, dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs, si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Bonjour Sylvana Condemi.
Bonjour Caroline.
Condemi, pardon. Bonjour François Savatier.
Bonjour Caroline.
Alors je rappelle Sylvana que vous êtes paléoanthropologue, directrice de recherche au CNRS à l'université d'Aix-Marseille. François Savatier, quant à vous, vous êtes journaliste spécialisé dans les sciences du passé. Nous avions eu le plaisir déjà de vous recevoir tous les deux autour de votre précédent ouvrage Néandertal, mon frère, qui a connu un grand succès. Pour vous, Sylvana et François, il était urgent face à toutes ces révolutions dans nos origines de reprendre la plume pour en quelque sorte faire le point sur nos ancêtres et nous donner justement les dernières nouvelles de Sapiens, Sylvana.
Oui, les choses ont beaucoup changé depuis 20 ans. Et ça a changé parce qu'il y a eu énormément de recherches sur le terrain, des fouilles qui ont porté au jour des nouvelles découvertes, pas simplement de fossiles humains, mais également de restes archéologiques. Et puis aussi, la façon d'étudier ces restes archéologiques et ces fossiles a complètement changé. Donc il était important pour nous de faire le point sur ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années et voir qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut dire sur nous, Homo sapiens?
Sur nous, Homo sapiens, parce qu'évidemment, se retourner vers le passé, c'est éclairer notre présent. Comment sommes-nous devenus ce que nous sommes? Vous l'avez dit, Sylvana, en quelques décennies, tout a changé. La révolution dans nos origines n'est pas finie, elle est d'ailleurs en marche. Grâce notamment à vos découvertes, Francesco De Rico, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu Gironde. Vous êtes Francesco, directeur de recherche au CNRS en préhistoire et évolution humaine à l'Université de Bordeaux. Vos travaux sur l'origine des comportements modernes vous ont mené à de surprenantes découvertes sur nos origines multiples, sur le continent africain notamment. Mais on va s'arrêter sur une découverte qui a fait la une de la prestigieuse revue Nature Nature en ce mois de septembre. C'est celle du plus ancien dessin au crayon, découvert dans la grotte de Blombos en Afrique du Sud, datée 73 000 ans avant le présent, soit 30 000 ans plus tôt que prévu. Et en Afrique, en plus, c'est un nouveau coup de théâtre. C'était une surprise pour vous, Francesco De Rico?
Oui et non. C'était une surprise parce que naturellement un dessin se conserve bien moins bien que d'autres types de manifestations symboliques, mais ce ne l'était pas parce que la grotte de Blombos, depuis, comme vous avez dit, le début des années 2000, a restitué, surtout dans ses couches datées autour de 73, entre 70 et 75 000 ans, plusieurs innovations qu'on s'attendait pas. Par exemple, des gravures abstraites, des objets de parure. À l'époque, quand on les a publiés en 2005, c'était les plus anciens objets de parure connus. Maintenant, on sait qu'il y a des objets de parure plus anciens qui viennent de Nord d'Afrique. Des outils en os assez semblables à ceux qu'on trouve en Europe après 40 000 ans. Et même dans des couches de vieilles de 100 000 ans, le plus ancien pot à peinture, un gros coquillage avec tous les ingrédients pour produire de la peinture et même les résidus de cette peinture au fond du coquillage. Donc je dirais, de ce point de vue, ce n'est pas une nouveauté, d'autant plus qu'un motif hachuré, comme celui qu'on voit sur ce petit morceau de pierre, est présent aussi sur des morceaux d'ocre avec des gravures provenant des mêmes couches.
Mais ce qui veut dire en fait que notre histoire d'homme moderne, elle remonte plus loin que prévu et aussi ailleurs que prévu.
Et c'est quelque chose la conclusion auquel on est arrivé depuis, je dirais désormais, au moins une dizaine d'années. Petit à petit, on a abandonné l'idée que ces comportements modernes étaient les résultats d'une révolution culturelle, symbolique, qui se serait produite en Europe il y a 40 000 ans, lors d'arrivée des hommes de Cro-Magnon, des hommes modernes en Europe, et, à cause du fait qu'on a rencontré des comportements modernes en Afrique, et maintenant de plus en plus chez les Néandertaliens en Europe, avant l'arrivée des hommes comme nous d'un autre continent.
Il y a eu aussi plusieurs sorties d'Afrique, évidemment, autour de la question quelle nouvelle de la préhistoire. Je propose de commencer alors chronologiquement en remontant vraiment le temps et en nous arrêtant sur les premiers outils préhumain cette fois-ci. Une découverte stupéfiante qui a été faite en 2015 par l'archéologue Sonia Armand dans ce qui est aujourd'hui le Kenya. Elle découvre des outils taillés à la main datant de 3,3 millions d'années à la main par des australopithèques, donc l'outil ne serait pas le propre de l'homme. Je propose d'écouter l'archéologue Sonia Armand et la paléanthropologue Sandrine Pratt.
Disons qu'on avait des indices en Éthiopie, les outils les plus anciens qui avaient été découverts dataient de 2,6 millions d'années. Nous, on avait les plus anciens du Kenya à 2,3 millions d'années. On s'était dit pourquoi est-ce qu'ils existeraient en Éthiopie et pourquoi ils n'existeraient pas au Kenya.
Voilà. Et voilà pourquoi vous avez cherché là-bas.
Exactement.
En fin de compte, la recherche de l'artisan des différents outils et la compréhension de la fonction de ces outils est un thème crucial en évolution humaine, d'autant plus que ces outils, donc datés de 3,3 millions d'années, sont bien antérieurs à l'apparition de l'homme. Donc ça remet en question beaucoup de choses, beaucoup de paradigmes, et notamment l'adage « qui dit homme dit outil, qui dit outil dit homme ».
L'outil n'est plus, ne serait pas le propre de l'homme, François Savatty. Alors ça change tout, évidemment.
Ça change tout parce que cela nous a semblé indiquer que c'est un mécanisme extérieur à l'humanité, un mécanisme qu'on peut considérer comme un phénomène naturel qui a produit cette humanité. Ce mécanisme, nous l'avons appelé la culture ou la culture humaine, mais il n'y a pas de raison de le qualifier d'humain puisqu'il a préexisté à l'humanité. Et manifestement, il s'était enclenché il y a 3,3 millions d'années déjà, ce qui signifie que, a priori, il serait au moins 500 000 ans plus ancien que l'humanité, puisque le plus ancien fossile présumé humain est un, si je me rappelle bien, un demi-maxillaire qui date de 2,8 millions d'années.
Donc cette quoi, hominisation ou cette ce prémisse d'hominisation est bien plus ancien qu'on ne le pensait, Sylvain Academy. Et c'est très compliqué de dire l'homme a démarré là. Qu'est-ce que c'est que l'homme, le préhumain? Qu'est-ce qu'il y avait avant, quand ça a commencé? C'est un gouffre qui s'ouvre.
C'est justement la question, parce que pendant très longtemps, il y a eu cette recherche depuis le 19e siècle, qu'est-ce qui fait l'humain? Et on l'a cherché du point de vue biologique, on s'est dit, c'est la bipédie, c'est la main qui se détache des capacités locomotion et donc qui peut faire des outils. Et à partir de ça, il y a des capacités cognitives, une augmentation de la capacité crânienne. Et on se rend compte que tout ça, c'est un phénomène qui est vraiment, qui a commencé très très tôt. Très tôt, on le voit très bien, on le montre dans la première partie de notre livre, donc les dernières nouvelles de Sapiens. On commence par Homo sapiens, donc on décrit qu'est-ce que c'est qu'Homo, et ensuite on parle de Sapiens, et on remarque qu'il y avait des bipèdes avant les hommes, les Australopithèques, que c'était une bipédie un peu différente de la nôtre, mais quand même ils étaient bipèdes, qu'il y avait des outils avant les outils qu'ils sont associés au genre Homo, qu'il y avait donc des capacités cognitives qu'on peut attribuer à ces Australopithèques. Et on met en évidence qu'il y a une évolution biologique et une évolution culturelle. Et à un certain moment, ce qui va se passer dans l'évolution, et c'est vraiment quelque chose de magnifique, c'est qu'au départ, il y a l'évolution biologique et ensuite, il y a la culture qui va diriger l'évolution biologique.
Et ça, c'est vrai pour les hommes, les homo sapiens, que nous sommes aujourd'hui tous sur Terre. Et c'est vrai déjà pour les préhumains, pour les hominidés. C'est-à-dire qu'on peut parler de culture, c'est que finalement, il y a une évolution biologique. Et ensuite, il y a une quoi ? Une accélération culturelle avec les outils, quelles que soient finalement les espèces.
Alors, il faut François Savatier, s'entendre sur ce mot de culture. Nous l'avons défini dans notre livre comme un ensemble de traits comportementaux, de symboles et d'idées qui sont partagés au sein d'un groupe et qui sont transmissibles soit à travers l'espace à l'intérieur du groupe, soit à travers le temps d'une génération à l'autre. Et donc, des cultures, il y en a chez les dauphins, il y en a peut-être, je crois, chez les éléphants, il y en a en tout cas chez nos cousins primates les plus proches, les chimpanzés et les bonobos. Et donc, il y en avait aussi chez les préhumains qui ont donc été dans l'ordre les ardipithèques, puis les australopithèques. Et ces cultures, comme les formes corporelles, étaient diverses, c'est-à-dire que l'évolution était buissonnante, et il y a sans doute eu plusieurs sortes de cultures différentes. De sorte que, j'en ai parlé avec Sonia Armand, quand on leur demande s'il s'agit d'australopithèques ou d'autres animaux qui ont taillé ces outils, elles sont embêtées pour répondre parce qu'il est fort possible que les gens qui ont taillé ces outils au Kenya ne soient pas devenus, ne soient pas devenus ensuite des humains. Donc, c'est bien cela, cette espèce de fluide social qui s'est développé à l'intérieur de plusieurs espèces d'animaux et qui continue à exister à l'intérieur de plusieurs espèces d'animaux, qui, dans une lignée préhumaine, a connu un phénomène d'amplification. Nous avons essayé d'analyser pourquoi dans notre livre, qui a conduit à l'hominisation.
Francesco Di Rico, j'aimerais bien votre point de vue là-dessus, sur ces outils préhumains, puisque vous travaillez justement sur l'origine de nos comportements modernes. Vous avez l'impression que c'est comme ça, il y a une sorte de continuité avec des ruptures, mais une sorte de continuité ?
Je suis totalement convaincu qu'il y a une continuité. Et je dirais que c'est la notion de continuité de la place de l'homme à l'intérieur d'un phylum très très long qu'il faut retenir. Même pour les comportements symboliques, au cours des dernières années, il y a eu de plus en plus d'articles qui ont montré que, par exemple, les chimpanzés, lors de la mort d'un congénère, dans certains cas, restent très près du cadavre pendant un jour entier, qui le touche, qui ne font rien d'autre. Il y a certaines mères chimpanzés qui ont été observées transporter le cadavre de leur bébé pendant plusieurs semaines, jusqu'à quand le cadavre tombe en miettes. Donc, mais cela signifie que très probablement notre ancêtre commun devait avoir une certaine attention au corps du défunt. Et cela signifie aussi qu'il nous manque 5,5 millions d'informations archéologiques sur comment ces comportements ont évolué.
Ça fait beaucoup, 5,5 millions d'informations archéologiques. Logique. Et puis ça veut dire aussi que ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'est-ce qui nous reste à nous humains finalement si on partage notre culture et notre évolution avec d'autres espèces. Ça met ça aussi, c'est ça aussi la question
aujourd'hui.
Mais
nous sommes un peu
Sylvana,
la somme de tout ce qui s'est passé pendant 7 millions d'années. Et il y a des choses qui ont été sans doute perdues, que nous ne connaissons pas encore, que peut-être nous découvrirons. Et puis il y a des choses qui sont restés en nous, qui restent en
intégrés
augmentation.
En nous sommes métissés entre plusieurs espèces humaines et pas seulement humaines.
On est le résultat d'un métissage biologique, mais aussi d'un métissage culturel.
À méditer autour de la question, quelle nouvelle de notre préhistoire ? Allez, on s'arrête quelques instants sur le berceau de notre humanité avec Toto sur RFI Africa. Sur RFI Africa, autour de la question quelle nouvelle de notre préhistoire, en compagnie du préhistorien Francesco Derico, de la paléoanthropologue Sylvana Condemi et du journaliste scientifique François Savatier, auteur des dernières nouvelles de Sapiens, ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs. Nous continuons de nous interroger sur nos ancêtres, tous issus du continent africain, ça c'est une certitude, sauf que là encore, il y a du changement, notre berceau africain n'est évidemment pas remis en cause, mais il s'élargit finalement de l'est de l'Afrique à tout le continent africain. Vous avez participé, Francesco Derico, à une étude internationale parue en juillet dernier qui a mis en évidence les origines multiples de Sapiens sur tout le continent africain. À ce sujet, une nouvelle question pour vous, soulevée par Cécile Lestienne du mensuel Cerveau et Psycho.
Dans les années 80, un chercheur américain qui s'appelle Milford Wolpoff avait effectivement émis une hypothèse de l'émergence multicentriste de l'Homo sapiens. C'est l'idée que Homo erectus était sorti d'Afrique, avait envahi le monde et s'était transformé en Homo sapiens, peu ou prou, un peu partout sur la planète. Ce que vous proposez sur l'origine de l'Homo sapiens en Afrique est effectivement un système de réseau d'évolution mosaïque assez complexe. Est-ce que ça peut se rapprocher de l'hypothèse de Wolpoff ou est-ce que c'est quelque chose de très différent ?
Votre réponse, Francesco Derico.
Bon, oui, c'est quelque chose de différent, dans le sens que, comme votre collègue rappelait, l'idée multirégionaliste présentée par Wolpoff prévoyait qu'à partir d'Homo erectus, ou maintenant on dirait peut-être Homo heidelbergensis, des populations humaines modernes se seraient développées dans plusieurs régions d'Eurasie, enfin pas des Amériques, parce que nous savons que la colonisation des Amériques, c'est un phénomène relativement récent. Mm-hmm. Actuellement, toutes les données qu'on a montrent que l'Afrique a fonctionné une sorte comme une pompe à population et que donc les populations humaines modernes, je dirais, sont sorties d'Afrique à plusieurs reprises.
À plusieurs reprises, il y a eu plusieurs sorties d'Afrique.
Oui. On a un papier récemment publié qui montre qu'il y avait des hommes génétiquement modernes au Proche-Orient il y a 160 000 ans, il y en avait qui il y a 100 000 ans, mais il semble que ces populations n'ont colonisé que le reste d'Eurasie à partir de 70 000 ans, 60 000 ans. Ce que nous proposons, c'est quelque chose d'un peu différent parce qu'on prend acte, en effet, que les populations humaines sorties d'Afrique sont celles qui ont eu la qui sont celles qui actuellement sont présentes en Eurasie, mais qui naturellement se sont mélangées avec des populations archaïques comme les Denisoviens et les Néandertaliens, mais on se centre sur la question de la de l'origine de l'homme moderne en Afrique. Et jusqu'aux années, je dirais 80, la vision alternative à celle de Milford Wolff était que en Afrique, les hommes modernes seraient développés dans un endroit très précis, avec une origine précise, selon un mécanisme, je dirais, darwinien classique, c'est-à-dire une toute petite population isolée. À l'intérieur de cette population, il serait développé des mutations avantageuses, et cette population, petit à petit, se serait différenciée des autres. Il y aurait eu donc la naissance d'une nouvelle espèce, avec une nouvelle cognition, et cette population, avec une nouvelle espèce et une nouvelle cognition, aurait remplacé rapidement les autres populations africaines.
Alors vous dites, c'est pas vraiment comme ça que c'est passé.
Voilà, cette vision est actuellement remise en jeu. Et l'intérêt de cette réunion de scientifiques de plusieurs provenances, c'est-à-dire des paléoclimatologues, des modélisateurs du climat, des généticiens, des archéologues. On s'est rencontrés il y a 2 ans à Oxford et on a compris qu'en effet, les données qui provenaient de toutes ces disciplines ne s'accordaient pas à cette vision, je dirais, un peu simpliste de l'origine de l'homme moderne et qui faisait plus de sens, malgré le fait qu'il y a pas mal de données qui manquent encore, de considérer qu'il y avait plusieurs populations qui avaient contribué à cette naissance, un peu comme différents vases communicants, des bassins avec des vases communicants et avec des robinets qui se sont ouverts ou fermés lors de changements climatiques. C'est un peu la nouvelle vision. Donc ce n'est pas le multirégionalisme à la Wolpoff, mais c'est plutôt se rendre compte qu'il n'y a pas une seule population source, mais plutôt une contribution de plusieurs populations à l'intérieur de l'Afrique à l'émergence de notre espèce.
Sylvain Lacombe-Condémy, ça veut dire au fond, on revient sur cette idée de métissage, de complexité, il n'y a pas une population qui sort et qui se transforme, c'est des allers-retours en fait sans cesse.
C'est-à-dire que déjà, pour compléter ce qu'a dit Francesco, ce qui se passe, c'est qu'avant, l'idée était extrêmement simple. C'est toujours comme ça en science. Moins on a de données, plus c'est facile d'émettre des hypothèses. Plus on a des données, plus on se rend compte que finalement, les choses sont un peu plus complexes. C'est-à-dire, avant, on pensait, il y avait des fossiles qu'on connaissait très bien en Afrique de l'Est, en particulier les fossiles qu'on appelle Homo. Et à partir de cette population qui était bien datée de 200 000 ans, on estimait que c'était un peu, je dirais, le bassin, la source de la population qui va sortir d'Afrique, qui va s'étendre et qui va coloniser dans un premier temps le Proche-Orient et ensuite, par la suite, le reste de l'Eurasie. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas tout à fait ça. Il y a eu une découverte extrêmement importante d'autres fossiles qui sont des fossiles qui sont un peu plus jeunes, de 160 000 ans par exemple, qui sont également en Afrique de l'Est, des fossiles qu'on a trouvés il y a très longtemps, par exemple en Afrique du Sud, Florisbad. Il y a eu la grande découverte dont nous parlerons en Afrique du Nord, qui a été redatée, les fossiles de Djebel Erhoud qui ont 300 000 ans. Et on se rend compte que donc c'est dessine quelque chose de plus complexe, c'est-à-dire des populations qu'on peut rattacher aux Homo sapiens, qui ont quand même des particularités. Celle de l'Afrique de l'Est n'est pas identique à celle de l'Afrique du Nord. Et ces populations ont pu déjà se croiser, se métisser en Afrique, avant même de sortir de leur berceau africain et de coloniser l'Eurasie. Et c'est ça la grande, je dirais, révolution à l'intérieur d'Homo sapiens au cours des derniers... des dernières années. À partir de 2015 à aujourd'hui, c'est vraiment une grande découverte.
Si je peux me permettre d'ajouter quelque
François
chose.
François Sabatier.
Tout ça invite à nuancer la notion de métissage si étonnante, prétendument, entre les Néandertaliens et les Sapiens, ou les Sapiens et les Denisoviens. Parce qu'en fait, ce qui semble s'être passé, c'est que
De toutes les différentes espèces humaines qu'il y avait sur Terre, ils se sont croisés, mélangés.
Mais c'était un comportement qui, si le groupe dont fait partie Francesco garde raison, c'est un comportement qui existait en Afrique naturellement et qui tout simplement, au fur et à mesure que la pompe africaine, que ce chaudron sous pression émettait des bouffées de population, a été étendu au reste de l'ancien monde, c'est-à-dire à l'Eurasie. Et donc, les gens, nos ancêtres, ont continué à faire comme ils faisaient en Afrique, c'est-à-dire qu'ils ont rencontré d'autres gens, ils se sont métissés avec eux.
Comme ils faisaient en Afrique, sur tout le continent africain, on l'a bien compris, hein, c'est pas juste l'Est. Il y a une autre découverte, hein, vous l'avez dit aussi, Sylvana, qui a aussi contribué à changer la donne, c'est donc la découverte au Maroc, à l'extrême nord du continent africain, sur ce site de Djebel Irhoud, du plus ancien fossile d'Homo sapiens, âgé de 300 000 ans, donc en gros 100 000 de plus que prévu. Je propose d'écouter le professeur Jean-Jacques Hublin, qui était ici même dans notre studio, auteur avec son équipe de cette découverte, qui commente cette découverte qui a vraiment bouleversé la chronologie et la géographie de nos origines.
Cette découverte, elle bouleverse un peu les idées que l'on a sur cette apparition, puisqu'effectivement, au lieu d'une apparition dans un espèce de jardin d'Éden est-africain, on se rend compte que probablement c'est l'ensemble du continent africain qui a été impliqué dans cette émergence. Mais je crois surtout ce qui est important au-delà du temps, parce qu'après tout, le public pourrait se dire, bon, 200 000 ans, 300 000 ans, qu'est-ce que ça fait comme différence, ou même du lieu. Je crois que surtout ce qui est important, c'est ce que cela nous apprend sur le processus d'émergence de notre espèce. Et c'est peut-être de ce côté-là que pour un paléanthropologue, il y a le plus de surprises, aussi le plus de débats. On imaginait l'apparition de l'Homo sapiens comme une espèce d'émergence un peu adamique. Tout d'un coup, voilà, paf, un homme comme vous et moi est apparu sur Terre. C'était presque créationniste, surtout dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est un processus un peu plus compliqué que ça, avec certains aspects de notre anatomie, certains caractères qui sont mis en place de façon très précoce. Et puis, par ailleurs, d'autres caractères qui, manifestement, ont évolué sur une longue période de temps, 300 000 ans, en particulier tout ce qui tourne autour de notre cerveau. Et c'est peut-être de ce côté-là qu'il y a le plus de nouveautés, en fait.
Du côté de notre cerveau, d'Homo sapiens, François Savatier, vous voulez enchaîner sur ce processus d'évolution. Il n'a pas poussé comme ça notre cerveau d'Homo sapiens, partagé par tout le monde sur cette Terre. Parce que s'il y a eu à un moment plusieurs espèces humaines sur la Terre, aujourd'hui nous sommes tous Homo sapiens.
Nous sommes tous Homo sapiens, c'est-à-dire tous des métis. Notre cerveau a évolué beaucoup plus lentement que ça n'est en général propagé. Il y a une sorte de cliché qui s'est répandu, qui est très répandu, qui est très, très souvent évoqué, qui est l'idée d'une sorte de révolution cognitive, je crois que Francesco en parlait plus tôt, qui aurait fait apparaître nos caractéristiques à la suite de certaines mutations génétiques qui seraient nées, disons, dans ce fameux jardin d'Éden que l'on a supposé éthiopien, par exemple. En réalité, les comportements modernes me semblent avoir été visibles dans le registre fossile et dans le registre archéologique assez tôt et sur une longue période de temps. Je ne voudrais citer que l'apparition de ce qu'on appelle, si je suis bien repéré en Afrique, le MSA, le paléolithique moyen africain, qui est caractérisé par une nouvelle façon de faire des outils ou... Auparavant, en Afrique, on a commencé par aménager des galets, puis ces galets sont devenus des bifaces, des outils universels dont on se servait pour toutes sortes de choses. Et puis tout d'un coup, j'ai tort de dire tout d'un coup, à un moment, dès 500 000 ans, et puis de plus en plus, partout en Afrique, à partir entre 400 et 300 000 ans, se multiplie ce qu'on appelle le débitage levallois, une façon de tout d'un coup réinvestir le nucléus, la pierre, le bloc que l'on taille, non pas pour en tirer un instrument universel, mais pour en tirer des éclats, des couteaux qu'on va débiter en série et dont on va se servir très souvent.
Est-ce qu'on peut expliquer, oui, Sylvana, pourquoi, comment, en même temps, finalement, il y a des foyers d'évolution humaine. On a l'impression que c'est un peu ça, à plusieurs endroits de la Terre, en même temps, surtout le continent africain, puis ensuite, après les différentes sorties, ailleurs un peu en même temps.
C'est très difficile à expliquer, mais on voit qu'il y a des innovations techniques dans certaines régions qui sont sans doute provoquées par une nécessité qui est due peut-être à des grands changements climatiques qui font qu'on est obligé de s'adapter pour pouvoir survivre. N'oublions pas que nous sommes en train de parler de tous ces humains. Jusqu'à il y a 10 000 ans, nous étions tous des cueilleurs-chasseurs. Donc il faut savoir qu'on vivait dans la nature et on devait exploiter cette nature. Et là, c'était important d'avoir des outils pour pouvoir l'exploiter. C'est-à-dire qu'on n'était pas encore producteur. Hein. On était vraiment, on était collecteur. On chassait, on cueillait. C'est très, très important. Et je pense que c'est un phénomène... Par exemple, si on revient sur la capacité crânienne, c'est que c'est un phénomène qui est très très lent. L'acquisition de cette grande capacité crânienne se fait sur une période très très longue. Nous avons des capacités crâniennes importantes à peu près à partir d'un demi-million d'années. C'est-à-dire avant un demi-million d'années, ce qu'on observe, c'est que la capacité crânienne des humains est proportionnelle à la taille corporelle. Et puis, il y a un changement qui s'effectue aux alentours de 500 000 ans où on voit une augmentation crânienne qui est indépendante de la taille corporelle. Et là, on se dit qu'il se passe quelque chose.
Et c'est là où je voulais en venir avec...
François Sabatier, sur l'évolution culturelle.
Avec cette histoire d'outils, c'est-à-dire que réalisons que dans un premier stade, on a fabriqué des outils de façon directe, et puis tout d'un coup, on s'est mis à fabriquer des outils qui savaient à faire des outils. Et ça, ça se trouve être parallèle avec cette augmentation du volume crânien.
Et c'est ça qui fait que ça change tout. C'est ça qui fait qu'on passe à autre chose. C'est ça qui fait que d'un seul coup, les archéologues, quand ils font ils trouvent d'autres outils et ils considèrent qu'on est passé à une autre
étape. Mais ce qui est important de signaler, c'est que cette taille importante n'est pas propre qu'à Homo sapiens. Par exemple, dans un secteur que nous connaissons bien, en Europe, on a une taille, une capacité crânienne qui est très importante avec les Néandertaliens. Donc on voit deux humanités qui évoluent parallèlement sur 300 000 ans en Afrique, Homo sapiens, en Europe néandertal, et qui vont aboutir à la fin à se rencontrer, à se métisser. Et ce qui est très important, je pense, c'est que les Homo sapiens de 300 000 ans, et c'est très très bien ce qu'a dit Jean-Jacques Hublin, ils sont des Homo sapiens, mais n'ont pas la forme d'Homo sapiens que nous avons aujourd'hui. Certains de ces Homo sapiens ont cette grande capacité crânienne avec des faces relativement petites, comme les nôtres. D'autres Homo sapiens dans d'autres régions d'Afrique vont avoir des grandes capacités crâniennes avec des faces encore extrêmement importantes, avec des grosses superstructures, au point que certains chercheurs aujourd'hui envisagent même de donner des noms différents à ces Homo sapiens. Voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui devient extrêmement complexe, mais c'est très important de voir que l'anatomie que nous avons aujourd'hui, c'est quelque chose qui se met en place tout doucement à partir d'une mosaïque de caractères de différents sapiens africains.
À partir de cette mosaïque de caractères, je propose de digérer tous ces bouleversements et de reposer notre gros cerveau d'Homo sapiens en écoutant Bobby McFerrin sur RFI. Ferrine sur RFI autour de la question « Quelle nouvelle de notre préhistoire ?» Le 12 septembre dernier, la revue Nature faisait donc sa une sur la découverte du plus ancien dessin au crayon, découvert en Afrique du Sud, dans la grotte de Blombos, découverte à laquelle vous avez participé, Francesco De Rico. On se rafraîchit la mémoire d'abord, avant de vous laisser la parole.
C'est une sorte de hashtag de l'âge de pierre qui a été mise au jour dans la grotte de Blombos, à 300 km à l'est de la ville du Cap. Le plus ancien dessin au crayon, découvert en Afrique du Sud, est un croisillon formé de plusieurs traits de couleur rouge, datant de 73 000 ans. réalise avec un crayon d'ocre sur un fragment de roche siliceuse, il précède d'au moins 30 000 ans les plus anciens dessins abstraits ou figuratifs connus jusqu'à présent et réalisés avec la même technique, souligne une étude publiée par la revue Nature mercredi 12 septembre. Ce morceau de roche faisait partie d'un objet plus grand qui était peut-être une meule pour produire de la poudre d'ocre. Cela renforce l'idée que ces croisillons étaient vraiment quelque chose qui existait dans l'esprit de ces chasseurs-cueilleurs et qu'ils n'étaient pas faits par hasard.
Un dessin abstrait qui n'a pas été fait par hasard il y a 73 000 ans, ce qui veut dire que nos ancêtres en Afrique du Sud avaient déjà des capacités, on va dire cognitives, pas loin des nôtres, Francesco De Rico.
Oui, ce n'est pas que ce petit dessin sur une pièce cassée qui semble le montrer. La chose intéressante à Brombos, c'est que ces innovations arrivent un peu comme un paquet, je dirais, nos collègues anglo-saxons. C'est-à-dire qu'on voit à la fois cette population produire des objets de parure, des coquilles, des gastéropodes marins, qui sont eux-mêmes couverts d'ocre. Parfois, ils sont chauffés avec une technique particulière pour changer leur couleur. Ces mêmes populations utilisent des grandes quantités d'ocre et parfois font aussi des motifs abstraits sur des morceaux d'ocre. Ils produisent des industries osseuses, enfin des outils en os entièrement façonnés. Donc je dirais que c'est un peu ce qu'on s'attendrait chez une population traditionnelle de chasseurs-cueilleurs, comme encore on a rencontré sur la planète il y a un siècle.
C'est ce à quoi on s'attendait. En fait, d'abord, uniquement en Europe, on pensait que tout avait commencé il y a 40 000 ans en Europe, pour le faire simple.
Tout à fait, tout à fait. Et maintenant, au contraire, on sait qu'en Afrique du Sud, à cette époque, et à des époques un peu plus récentes, et aussi en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie, au Proche-Orient, on trouve des populations parfois bien caractérisées morphologiquement. Ce n'est pas tout à fait le cas dans cette zone en Afrique du Sud. À Blombos, il y a quelques dents qui ont un aspect moderne, mais il y a pas de, enfin, il y a des restes humains, par exemple la Classes River, mais pas autant que dans d'autres zones par exemple en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Mais disons que nous voyons que ces populations ne taillent pas que la pierre, mais ils ont un ensemble de comportements techniques et des comportements qu'on peut interpréter comme symboliques proches des nôtres. Mais c'est aussi intéressant de montrer que dans d'autres régions africaines, ces comportements soit ne semblent pas apparaître, soit même à Blombos ou en Nord d'Afrique, semblent disparaître à un certain moment. Donc l'impression est en face à une série d'expérimentations culturelles que parfois ne réussissent pas. Et donc il y a des innovations qui émergent, mais aussi des innovations qui sont perdues. Pour retourner à ce qu'il disait François Savatier avant, on peut s'imaginer un scénario avec plusieurs trajectoires culturelles régionales de populations qui parfois rentrent en contact. Et c'est ces trajectoires culturelles qui font face à des changements climatiques. Et parfois, ce challenge climatique se produit des innovations, parfois produit la perte d'innovations, peut-être que parfois aussi causer la perte des populations. Et ce qui est intéressant en regardant le processus de cette façon, c'est qu'on peut abandonner l'idée d'une seule cognition moderne issue d'un processus de spéciation unique qui se serait produit en Afrique, par exemple dans l'Est africain. Donc on est face à quelque chose de plus complexe, mais je dirais à la fois plus intéressant parce qu'on voit une phase de 300-400 000 ans au cours de laquelle plusieurs populations humaines ont innové. Parfois, ces innovations se sont maintenues et dans d'autres cas, au contraire, ont été perdues. Et dans certains cas, ils ne se sont pas produites jusqu'à des époques assez récentes.
François Savatier, dans ce livre, Dernière nouvelle de Sapiens, vous avez, comment dire, non pas une théorie, mais c'est effectivement extrêmement intéressant. Vous parlez de seuil, en fait, parce qu'on a eu l'impression que d'un seul coup, notre cognition avait évolué, qu'on était capable de faire des choses. Et finalement, c'est pas tellement comme ça que ça s'est passé, sauf que par moments, on trouve comme ça trace d'une innovation formidable et d'un seuil qui est franchi par ces hommes modernes.
Comme je le disais tout à l'heure, la culture, ce fluide social, a souvent déclenché, de parce qu'elle a produit des accélérations de la vie sociale, qui ont elles-mêmes entraîné une augmentation démographique, plus de succès dans l'adaptation aux environnements ou des comportements nouveaux, comme par exemple le fait de quitter l'Afrique et d'aller très loin. Et donc, je crois que l'évolution humaine a été finalement beaucoup plus lente qu'on ne l'imagine. Mon sentiment, et je ne sais pas si Sylvana ou Francesco seraient d'accord avec moi, mais mon sentiment est que on a aujourd'hui, et depuis la Révolution française en quelque sorte, depuis que la Révolution française est à la mode, on a la manie de parler de rupture et de révolution. Alors qu'en réalité, les choses avancent très lentement, et puis tout d'un coup apparaît un nouveau comportement, une nouvelle technique, une nouvelle situation qui va être la situation, la technique, le comportement qui vont être parfaits pour qu'une amplification ait lieu.
Et comme par exemple le fait de pouvoir faire et jouer d'une flûte, comme cette flûte orignacienne découverte dans une grotte du Jura Swab que vous nous avez fait passer, François Sabatier.
Oui, c'est une culture qui s'est développée dans ces montagnes qu'on appelle le Jura Swab, qui se trouve dans la région de Stuttgart, et où nos ancêtres du Paléolithique supérieur avaient l'habitude de se masser dans des vallées, dans des grottes, où on retrouve parfois des objets coupés en deux, dont une moitié se trouve dans une grotte et une moitié dans l'autre, ce qui signifie qu'en fait il s'agissait d'agglomérations. Et dans ces endroits qui étaient manifestement des lieux où la culture était intense, se concentrait, qu'est-ce qu'on trouve? Notamment des instruments de musique. Et ça, ça montre que la culture était déjà rentrée dans dans quelque chose qui n'est pas utilitaire. C'est étonnant.
Étonnant, pas de rupture non plus, Sylvana Condémy.
Non, pas de rupture. C'est-à-dire que quand on regarde vraiment sur le long temps, sur le temps long, ben, y a des choses qui apparaissent qui nous font voir comment des innovations ont pu être très importantes. Alors on va retourner, on part un peu dans l'ancien. Moi, je voudrais retourner sur quelque chose qui a eu beaucoup, beaucoup d'influence. C'est une culture qui a eu d'influence sur notre biologie. Par exemple, est-ce qu'on réfléchit à ce que ça a voulu dire, et on en parle, la découverte du feu, c'est-à-dire la domestication du feu? C'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que quand on peut cuire les aliments, eh bien beaucoup de choses changent. On passe moins de temps à mâcher, moins de temps à digérer. Notre corps subit des modifications extrêmement importantes, et on peut assimiler, alors il y a des études qui ont été faites, par exemple sur des racines, sur certains produits, quand c'est cuit, on les assimile beaucoup mieux et en quantité beaucoup plus importante.
Donc le feu et la cuisine ont aussi participé à notre évolution culturelle et biologique.
Si on a besoin, c'est-à-dire si les aliments deviennent plus digérables, qu'on peut les assimiler mieux, eh bien on a plus d'énergie, on peut faire fonctionner beaucoup plus notre cerveau, on peut peut-être se multiplier beaucoup plus, être une population plus importante. Et on sait que les innovations se produisent dans des populations qui ont un effectif important. Et donc ça, tout ça, vous voyez, on part du feu. Et à partir de là, on peut extrapoler et dire des choses extrêmement intéressantes.
Il y a une certitude, en tout cas, sur notre espèce humaine, c'est qu'elle a toujours été voyageuse. D'hier à aujourd'hui, je propose d'écouter Abadji sur RFI, Voyageur.
Voyageur, il n'y a pas de chemin. On fait du chemin quand on marche. Qu'on croit au ciel comme au matin. Au matin comme une immense tâche. Tâche de lumière et d'espoir. Même si derrière tout est noir. Voyageur sur cette terre en déroute, ta vie c'est ta route, ta vie c'est ta route, ta vie c'est ta route. Voyageur, il n'y a pas de chemin, on fait du chemin quand on vit. Sa vie face au destin et face au monde qui s'oublie.
Abadji, le voyageur sur RFI, nous sommes une espèce voyageuse. Ça, c'est au moins une certitude, une espèce qui... Des espèces, d'abord au départ, des espèces humaines qui avons migré sur la Terre. Ah, et oui. Puis aujourd'hui, une seule espèce humaine qui continue de voyager ou de migrer.
Qui continue à voyager et migrer. Alors, comme l'a signalé tout à l'heure Francesco Derrico, on voit des Homo sapiens qui sortent ou qui s'étendent de leur berceau africain au Proche-Orient, déjà il y a environ 190 000 ans. On en voit dans la péninsule arabique à 140 000 ans. Et à partir de là, on a l'impression que très très vite, il y a une expansion. D'abord dans les zones chaudes, et puis ensuite, ces humains vont aussi coloniser des zones plus tempérées. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire qu'ils ont réussi quelque chose de très important, c'est de s'adapter à des milieux différents par rapport à ceux qu'ils avaient connus en Afrique.
Donc c'est une force que notre espèce humaine, que les espèces humaines qui existaient sur Terre autrefois, et la nôtre aujourd'hui, Homo sapiens, voyagent. François Sabatier.
C'est une grande force parce que c'est une façon d'innover. C'est comme ça qu'on découvre de nouvelles idées, de nouvelles façons de vivre et que l'on peut traiter ces problèmes. Par exemple, les nombreux Africains qui aujourd'hui viennent dans le monde développé ont envie d'avancer, de ne pas vivre les vies limitées qu'ils ont dans leur pays. Alors c'est pour ça qu'ils se mettent en route comme nos ancêtres l'ont toujours fait. Et c'est parfaitement compréhensible.
Francesco Derrico, sur cette espèce voyageuse et migrante, donc je rappelle, il n'y a plus que des Homo sapiens aujourd'hui sur Terre, même s'il y a eu beaucoup d'autres espèces humaines en même temps buissonnantes. Cette idée du voyage, des migrations, des mélanges, des métissages, on va peut-être terminer là-dessus.
Oui, je dirais que se déplacer, disons, c'est sans doute les hommes modernes qui sortaient d'Afrique n'avaient pas une conscience de ce voyage. C'était quelque chose qui se faisait tout naturellement pour eux, mais contrairement aux migrants actuels qui ont une vision très précise, je dirais, seconde par seconde de la planète, de la géographie, etc., ce n'était pas le cas pour ces premières populations. Il y a un aspect important de ce voyage. Je dirais, sans connaître la géographie, était qu'on rencontrait d'autres. Et une des grandes découvertes de ces dernières années, c'est qu'en rencontrant ces autres, on était capable de reconnaître ces autres comme des gens qui n'étaient pas aussi différents de nous, et on pouvait échanger des gènes avec eux. On pouvait même, dans certains cas, acquérir des gènes qui pouvaient être avantageux pour s'adapter à des climats plus difficiles. Donc, je dirais, c'est ça qui est remonté à la surface. L'idée du vieux, je dirais, out of Africa, c'était que cette nouvelle population était significativement différente des populations archaïques pour son comportement, pour ses capacités cognitives.
Et ça, c'est pas vrai, aussi, finalement, hein.
Mais aussi parce que c'était une espèce qui était morphologiquement différente des autres et il ne pouvait pas se mélanger avec ces autres populations. Donc c'était vraiment une autre humanité. Et on découvre maintenant que les hommes modernes se sont mélangés avec les Néandertaliens, que les Néandertaliens se sont mélangés avec les Denisoviens, que les Denisoviens se sont mélangés avec les hommes modernes. Et en plus que cette petite, relativement petite quantité de gènes qui nous reste, mais dans certaines populations humaines ont un input denisovien assez important, en effet, pouvait être bien plus important au moment du métissage.
Merci pour cette conclusion sur notre humanité métissée, buissonnante. Merci d'avoir partagé toutes ces pistes sur notre préhistoire depuis les studios de France Bleu Gironde. Merci beaucoup, Francesco Derrico. Merci Sylvana Condemi et François Sabatier. Je rappelle le titre de votre ouvrage passionnant, Dernière nouvelle de Sapiens, qui vient de paraître chez Flammarion. Et nous avons un exemplaire à vous faire gagner, amis auditeurs. Demandez-le nous par mail ou sur notre page Facebook. Je signale aussi la parution d'un ouvrage collectif aux éditions La Ville Brûle, Variations sur l'histoire de l'humanité. Merci à Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Je vous donne rendez-vous lundi pour de nouvelles interrogations à partager ensemble. Surtout, restez curieux, buissonnants et gardez l'esprit libre et ouvert à l'écoute de RFI. Prochain journal dans une minute.